Voje al Esperanto. Al Esperanto. Une émission proposée par l'association Esperanto 24. Pour les non-espérantophones, Survoje al Esperanto signifie en route pour l'espéranto. Je m'appelle Brigitte Favorial et j'anime cette association qui se trouve au quartier des Mondoux, à Périgueux. Fidèles à leur charte, Radio Périgueux 103 et Radio Plaisance permettent de s'exprimer sur leurs ondes à toutes celles et à tous ceux qui partagent le désir de forger d'autres manières d'être. Parmi ceux qui s'éloignent de la pensée unique, la communauté espérantiste, par l'apprentissage d'une langue simple et non hégémonique, a pour vocation de faciliter le rapprochement des peuples et des cultures. Voici donc Survoje al Esperanto, en route pour l'espéranto, une émission qui vous propose de faire connaissance avec la langue internationale espéranto et avec sa culture. Nous proposons aujourd'hui à nos auditeurs une rubrique consacrée à l'espéranto et à Internet. L'espéranto est une langue jeune puisqu'elle n'a que 115 ans et nous avons pu proposer à nos auditeurs de nombreux exemples de sa culture comme des chansons, des poèmes, des fables, des sketchs ou de l'humour. Et si vous vous souvenez des leçons d'histoire de notre ami Tides, l'idée qui a donné naissance à l'espéranto était de pallier la barrière des langues et de faciliter ainsi la communication entre des peuples de langages et de cultures différentes. Or, un média nouveau est apparu, il y a environ 20 ans, c'est Internet. Ce média a un point commun avec l'espéranto, son but est aussi de rendre plus facile la communication et l'information. Pour examiner ce problème, je vais donc être accompagnée par les deux Thierry qui vont un petit peu répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur ce thème. Alors d'abord, l'espéranto a-t-il pris part à la vie et au développement d'Internet ?
Oui, bien sûr, puisque dès le départ, les espérantistes ont compris tout l'intérêt que présentait ce média pour s'adresser des messages. C'était bien sûr facile, peu coûteux et beaucoup plus rapide que les moyens qu'ils utilisaient jusqu'alors, comme le courrier ou le téléphone. Donc très très vite, bien sûr, les échanges entre espérantistes via le net ont été très nombreux et ont pris des formes très variées.
Donc en fait, pour par exemple les correspondants, les espérantistes sont de fervents correspondants par lettre jusqu'à présent. Donc par Internet, comment fait-on ?
Eh bien, tout d'abord, il existe de nombreuses listes de diffusion ou de discussion entre espérantistes. Certaines sont simplement très généralistes, comme pour simplement établir des contacts entre des gens qui ne se connaissent pas. Et d'autres sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus thématiques. On pourrait citer quelques exemples, comme j'ai en tête une liste qui s'adresse à des espérantistes qui souhaitent élever leurs enfants, leur apprendre l'espéranto comme langue maternelle. Bien souvent, ce sont des couples qui ont des langues maternelles différentes, eux-mêmes, les deux parents. Et il y a de nombreuses discussions sur cette liste, que par curiosité, dont je suis les débats par curiosité, de nombreuses discussions pour savoir quelles sont les bonnes méthodes, quels sont les risques éventuels, que toutes les questions que se posent en général les futurs parents. Et ceux qui sont passés par là leur donnent en général de judicieux conseils sur les différentes méthodes applicables. Par exemple, chaque parent parle une langue, ou alors on associe une langue à une situation, etc. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait aussi citer des listes plus engagées, comme par exemple celle qui prépare actuellement un forum social en espéranto. Il verra le jour ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, c'est un moyen pour des espérantistes qui ont d'autres engagements par ailleurs de faire le lien entre les problématiques sociales au sens large et le mouvement espérantiste. On pourrait citer des listes peut-être un petit peu plus anecdotiques, comme des philatélistes ou des professions, par exemple, comme les cheminots, qui sont historiquement aussi très, très engagés dans l'espéranto et qui ont bien sûr compris, eux aussi, que les listes de diffusion, qu'Internet était un moyen d'entrer très facilement en communication les uns avec les autres.
Alors, il y a un problème quand même qui est attaché à Internet, et enfin à l'espéranto en particulier, c'est le problème des lettres accentuées, puisque nous avons 6 lettres avec un accent circonflexe. Or, ces signes-là ne peuvent pas apparaître sur Internet. Alors, comment on se débrouille ?
Alors, on a trouvé quelques moyens quand même, parce que l'intelligence de l'homme, c'est toujours de pallier. Alors, puisque nos chers camarades américains ont pensé que le monde était fait à leur image et ont totalement oublié que les Français, les Allemands, voire même les Anglais, d'ailleurs pour certains cas, avaient des caractères accentués, il a bien fallu trouver une solution différente. Alors la solution, pour nous, ça consistait à trouver, d'ailleurs pas une, mais des solutions. En fait, quand on a un caractère accentué, on peut soit mettre l'accent avant ou après la lettre, ce qui reste une manière graphique de faire les choses, soit on remplace
Il faut peut-être rappeler que ce sont des consonnes qui sont accentuées en espéranto, pas des voyelles.
Oui,
donc le C, le G, le H, le S, et puis j'en oublie d'autres,
le J,
donc effectivement, donc on place l'accent circonflexe soit avant, mais
pour
soit
certains,
après.
C'est avant. Le monde espérantiste est un monde un peu vivant, et donc il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas une qui a été dégagée d'office
par tout le
monde.
Rien n'a été adopté encore.
Voilà, il n'y a pas d'obligation. Donc certains mettent un accent devant, certains mettent un accent après, certains mettent une apostrophe. Maintenant, moi, c'est ce que je fais le plus souvent, parce que l'apostrophe, c'est un signe qu'on trouve à peu près sur tous les claviers mondiaux. Et puis pour d'autres, ça a consisté aussi à rajouter une lettre que l'espéranto n'utilise pas, le X par exemple, qui n'existe pas en espéranto. Donc quand on voit le X,
qui n'existe pas dans l'alphabet.
Qui n'existe pas dans l'alphabet.
Le son existe, mais dans l'alphabet,
voilà,
la lettre
n'existe
pas.
Elle n'existe pas. Et donc en mettant par exemple CX, on imagine que c'est un C avec un chapeau, un accent circonflexe. Donc c'est une manière d'exprimer les choses qui à mon sens n'est pas très bonne, parce que c'est graphiquement ça me gêne, mais bon. Il n'y a personne qui prend la décision de dire on fait comme ça ou comme ça.
Je pense que peut-être l'usage finalement viendra un peu régler le débat. Enfin, il n'y a d'ailleurs même pas de débat.
Oui, il y aura peut-être à la longue une majorité de personnes.
Puisque effectivement, il semble que l'apostrophe soit de plus en plus répandue. Mmh. Et je pense que peut-être au fil des années, ça deviendra une règle, sinon écrite, au moins très largement pratiquée. Ce que je voudrais peut-être souligner aussi, c'est que finalement, quelle que soit la solution adoptée, ce n'est pas vraiment une gêne très importante, et que assez rapidement, on fait la correction mentale qui nous permet de bien lire comme si la lettre était accentuée normalement.
Oui, effectivement, ça surprend les jeunes espérantistes, les nouveaux espérantistes, de voir ces X-là alors qu'il n'y en a pas dans la langue. Ils se demandent d'où ça sort. Mais une fois après qu'on les a bien prévenus, on s'y retrouve.
Et on peut aussi rajouter que pour ceux qui sont férus d'informatique, c'est que M. Bill Gates nous a quand même, après quelques années d'insistance, nous a rajouté les caractères espéranto dans ce qu'on appelle l'Unicode, qui comprend tous les alphabets mondiaux. Donc quand on aura des logiciels de messagerie entièrement programmés sous Unicode, on pourra là utiliser les véritables caractères espérantistes.
Pidgeys en la flude la lasta jar Kami ne skidzi sur la neđo de februar Estas dege linta nur la neđo kaj mi akor Mi povas tia okaze, šeti ci kor
A straton de la urbe, vagas ke la brador En mia menso formiĝis grandioza metafor
Mi manĝas veron kaj merdas ĉenon La marko de la besto makaŝas la omenon Ti severa estas mi ke el miaj okuloj Unu rigardo, rompas pekulon Kaj mi ne estas superstiĉa, la venonto brilas Pluvas nun, sed baldaŭ mi jubilas El la strato de Londono al ultramar Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas? Ĉu mi pretas? Ĉu mi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas? Ĉu mi pretas? Ĉu mi pretas por la veno de dolĉa mar? En la svalta giangalo Ciu case sur la pinto del mondo Sub la centra punto Pensante pri la contrapunto Sen mangio en la ventro Sen mono en la posh Iu pugulo al mi Includis mien pushun Oi,
kriegis mi
Flaru mi en katsun Kai tuli ja kapo
Trafis la terra sur katson Kion diable homo fix rigardas Ciu ili pensos ke ili pli bonas
Figi ciu matro kai vi afer kusumulo Jen estas autentiga sentaugulo Sentaugulo, sentaugulo Culo, senta o culo, senta o culo Galera Chubi pretas, chubi pretas Chubi pretas por la veno de Dolce Mar Chubi pretas, chubi pretas Chubi pretas por la veno de Dolce Mar Chubi pretas, chubi pretas Chubi pretas por la veno de Dolce Mar Chubi pretas, chubi pretas Chubi pretas por la veno de Dolce Mar
Donc il était question, au début, de faciliter l'information. Mais quelles informations peut-on trouver dans le monde espérantiste, donc par Internet ? Sur quel thème ?
Alors, des informations, c'est de toutes sortes. D'abord, il y a des informations sur le mouvement, évidemment, sur l'organisation, les différentes associations, sur comment est organisé le mouvement espérantiste. On sait qu'il y a une organisation internationale qu'on a déjà décrite par ailleurs dans les différentes émissions, qui s'appelle UEA, Universala Esperanto Asocio, qui est l'association mondiale d'espéranto. Et puis après, c'est décliné dans chacun des pays. On a les différentes associations UFOE en France pour l'Union française d'Espéranto et ainsi de suite. Donc sur le mouvement, chaque grande association ou chaque pays a son site sur Internet qu'on peut consulter, sur lequel on aura les informations, bien entendu sur l'espéranto, mais aussi sur ce que fait cette association à ce moment-là. Si c'est un congrès, si c'est une manifestation, ce qu'elle peut produire comme document et autres. Et puis après, il y a d'autres types d'informations. Sur la langue, par exemple.
Alors, sur la langue, effectivement, il y a de nombreuses informations. Depuis la liste de discussion des académiciens, très sérieuse et quelquefois un peu austère, surtout pour les débutants, faut bien le reconnaître, mais aussi tout un tas d'outils très pratiques, comme des dictionnaires, comme des œuvres directement accessibles en espéranto, des cours.
Alors, justement, bien entendu. Je disais au début qu'on a commencé en disant que la littérature espérantiste existe, puisque nous en donnons des extraits. Est-ce qu'on peut lire des livres sur Internet?
Tout à fait.
En espéranto.
De très nombreux, effectivement, plusieurs sites proposent des ouvrages en ligne. C'est alors à la fois de la littérature originale directement écrite en espéranto et des traductions. Certaines œuvres rares aussi qu'on ne trouve plus. J'ai eu le plaisir de pouvoir lire le Proverbaro de Zamenhof, qui est pratiquement introuvable,
qui n'est plus édité
depuis très longtemps, et de pouvoir avoir accès comme ça à des ouvrages qui ont complètement disparu. La seule difficulté, c'est que la plupart du temps, effectivement, il est difficile d'imprimer correctement ces ouvrages. À l'impression, on perd les lettres accentuées. Alors là,
c'est le problème de la police.
C'est un réel problème. Mais par contre, effectivement, la lecture à l'écran ne pose aucun problème. Et là, les lettres sont, on peut les lire de manière tout à fait normale. Elles sont accentuées tout à fait normalement à l'écran.
Thank you.
Alors avant de pouvoir lire des livres, il faudrait peut-être savoir si on peut apprendre la langue sur Internet. Est-ce que l'enseignement de l'espéranto se pratique sur le net ?
Bien entendu, comme toute chose, comme tout ce qu'on trouve sur le net, on trouve de l'enseignement. C'est peut-être pas le premier but d'Internet, mais effectivement, on peut commencer à apprendre la langue sur Internet. On trouve des cours corrigés par correspondance sur Internet, donc corrigés par messagerie où les gens corrigent. Donc vous recevez le cours, vous faites le cours et vous l'envoyez. Par contre, le cours, ce n'est que de l'écrit, donc on n'entend pas une langue. Quand même, sa priorité, c'est de s'entendre et se parler. Mais je crois que Tides, toi, tu as déjà suivi un cours sur Internet.
Alors
c'est peut-être même comme ça qu'il a commencé.
C'est effectivement comme ça que j'ai, découvert, puisque j'en avais entendu parler, mais c'est comme ça que j'ai commencé à m'initier à cette langue, avec un cours qui est assez connu dans le milieu espérantiste, qui s'appelle le cours en 10 leçons, et qui, en 10 leçons, permet donc d'aborder l'ensemble des règles de grammaire de l'espéranto, d'avoir déjà... acquis tous les éléments fondamentaux qui vont permettre de pratiquer la langue. Alors effectivement, une langue, c'est d'abord un véhicule, d'abord un moyen d'échange. Donc certes, ce n'est pas parce qu'on est allé au bout d'un cours en 10 leçons qu'on maîtrise parfaitement cette langue. Il y a quelques illustrations sonores qui sont également comprises dans ce cours, ce qui permet, même si on n'a pas l'occasion de pratiquer immédiatement, malgré tout, d'en avoir entendu la musique et de pouvoir s'entraîner, ne serait-ce que pour mettre l'accent à la bonne place, pour prononcer les R correctement, ce qui est une difficulté souvent chez les Français, qu'on reconnaît souvent à cette particularité. Donc malgré tout, je crois que ça permet déjà d'aborder un bon niveau de langue. Et puis le caractère interactif, puisque au-delà de l'envoi du devoir, il y a
oui,
tout à fait
une
possibilité.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a peut-être une correction aussi qui est faite.
Alors il y a une correction, et bien souvent les correcteurs, qui sont tous bien entendu des bénévoles, sont un peu des militants de la langue aussi, et toujours très babilema, très porté à engager un dialogue au-delà de la correction du cours. Et je conserve des relations épistolaires, enfin par internet bien entendu, avec mon correcteur d'il y a maintenant 3 ans. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une expérience très intéressante, avec, je dirais, l'intérêt de pouvoir aller à son rythme. La recommandation est de ne pas envoyer plus d'un cours par semaine, mais pour certains, après tout, ça peut être utile même d'avoir un rythme un peu plus espacé, le temps de bien assimiler toutes les différentes notions, et le faire en tout cas en s'adaptant à son propre emploi du temps, sans avoir la contrainte d'un cours qui revient avec une périodicité régulière et qu'on a parfois un peu de mal à caser dans son emploi du temps.
Et pour toi personnellement, combien de temps tu as mis pour terminer ce cours ?
Et j'ai dû le faire en 4 ou 5 mois. Donc j'ai été largement au-delà de ce qui
était... Oui, mais en fait, je me souviens que lorsque tu as rejoint notre groupe Espéranto 24, je crois que tu étais déjà assez à l'aise. Tu avais quand même déjà surmonté l'ensemble des difficultés. Il te manquait peut-être le niveau sonore, on va dire, le plan de la parole, la pratique de la parole, mais tu avais quand même déjà bien assimilé, et au bout de quelques mois, parce que je crois que tu nous as rejoints, je crois que c'était au mois de février
j'avais dû commencer en novembre.
Les résultats ont quand même été très très vite visibles.
Audible
tout au moins.
Merci.
Ah oui, non, parce qu'on ne fait pas de dictée chez nous, on laisse parler les gens.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce cours est relativement didactique dans sa présentation, présente aussi une véritable progression pédagogique. Donc je crois qu'on commence, on n'aborde pas tous les aspects de la langue simultanément, ce qui permet effectivement d'abord au bout du troisième cours d'avoir déjà un niveau d'expression qui permet de dire des choses, et puis progressivement d'enrichir ce qu'on a déjà appris par des subtilités supplémentaires. Et effectivement, je crois qu'il est de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Alors je ne veux pas n'ont plus avoir l'air de faire de la publicité pour ce seul cours en dit leçon.
Oui, parce qu'il y a,
il
y
en
a
existe,
plusieurs.
Il en existe voilà. D'autres.
Il y a certainement plusieurs méthodes, oui.
Que je n'ai pas suivies. Évidemment, on ne débute pas plusieurs fois, donc on ne peut pas faire plusieurs fois cette expérience.
Quand même, est-ce que tu peux nous dire s'il y a aussi des cours qui s'adressent à des enfants ou des jeunes gens?
Alors, il y a un cours brésilien qui est très, très intéressant de ce point de vue-là. C'est un cours interactif, là il n'y a pas de correcteur qui intervient directement. Par contre, par un jeu de cases à cocher, l'enfant a tout de suite la réponse à l'exercice qu'il est en train de faire. Exercice donc, là, pour lequel, là aussi, il y a une progression, à la fois en termes de vocabulaire et de grammaire. Et il y a, en fonction de la réussite, il y a soit des encouragements, soit des phrases qui sont dites donc directement à l'enfant pour lui expliquer l'erreur et montrer quelle était la bonne réponse. Et au bout de chaque leçon, se calcule automatiquement le pourcentage de réussite, ce qui permet effectivement de faire une auto-évaluation. Alors c'est un cours qui est plus destiné aux enfants, effectivement, qui a un caractère, un côté un petit peu ludique, mais après tout qui peut aussi convenir à des adultes, puisqu'il permet de découvrir de la même manière les mécanismes de la langue.
Tout à fait.
Dancis mes orienta vals, batu mi trumoi, tremu cum bas, juviam dancis mes orienta vals, captu mi ritmon comenzu du tri, danci cae canti facile por ni, captu mi ritmon comenzu du tri, danci cae canti facile por ni. Mezz'orienta valzo, danzu mi blu, latinae sonoi cun fluto tara, hei cantu mi cune commenzu la la.
Vous entendez Survoye al Esperanto, une émission présentée par l'association Esperanto 24. Vous pouvez nous retrouver à Périgueux, quartier des Mondoux, au 22 bis rue Charnay-Fraché. Notre téléphone 05 53 08 60 08. Pour ceux équipés d'Internet, vous pouvez nous joindre à l'adresse esperanto.24@laposte.net ou sur notre site www.esperanto.fr.st.
Alors, Alors, nous avons parlé de parties sonores faisant partie de certains cours. En termes de son, qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre en espéranto ?
Alors, en termes de son, puisqu'on est à la radio, on va commencer par les radios. Donc, il y a quelques... on peut trouver des radios sur Internet, peut-être pas des radios permanentes, mais au moins des émissions de radio qui sont faites par des radios, elles, permanentes, comme Radio Varsovie ou... c'est Radio Autriche, je crois.
Radio Autriche.
C'est ça. Et Radio Varsovie, c'est la Pologne, c'est ça. Oui, ou Vatican,
on a le Vatican,
ou le Cuba aussi qui fait ça. Donc on trouve des émissions de radio qui ont été produites par le moyen traditionnel de radio, mais qu'après on peut capter sur Internet. Par exemple, Radio Périgueux 103 a eu quelques émissions de radio en espéranto sur Internet, puisque nous avons enregistré des émissions. Et nous les mettons à diffusion sur l'Internet à destination du monde entier. Donc on peut penser que Radio 103, un jour ou l'autre, sera captée dans le monde entier grâce à Internet et grâce à Espéranto 24 qui fait ce travail-là. À part la radio qui est le principal média, le son c'est aussi beaucoup la chanson évidemment. Donc là ça m'intéresse évidemment personnellement puisque je produis des chansons, et donc on trouve sur Internet, on trouve plusieurs sites, que ce soit surtout le site brésilien mp3.com, mais il y a d'autres sites sur lesquels on trouve des chansons en espéranto, alors soit des parties entières que des artistes espérantistes mettent à disposition gratuitement du monde entier, soit des bouts de chansons pour faire connaître tel ou tel artiste qui veut se faire connaître par l'intermédiaire d'Internet, et ou des chansons qui ont été aussi produites, puisqu'il y a une maison de production en France qui produit des disques en espéranto qui s'appelle Vinyl Cosmo, et qui a un site sur Internet, en l'occurrence www.vinylcosmo.com, sur lequel on peut trouver la plupart des artistes, je veux dire, européens, puisque surtout français, mais européens, donc on trouve sur ce site-là avec des extraits des albums et puis une petite notice sur chaque artiste pour pouvoir savoir ce qu'il est, ce qu'il fait, quel est le style de la musique, puisqu'il n'y a pas qu'un style. Il y a l'espéranto comme vecteur, comme langue, mais après, ça peut aller du rap au blues, au rock, au jazz, à la chanson traditionnelle, au latin, et ainsi de suite. On trouve un peu tout. D'ailleurs, pour ceux qui suivent notre émission, ils ont pu se rendre compte depuis maintenant plusieurs mois qu'on avait des artistes dans tous les styles dans l'espéranto. L'espéranto, l'esperantuyo, le monde espérantiste est quelque chose de vivant, de productif.
Nous avons parlé au début de la correspondance entre les espérantistes par les messages Internet. Mais est-ce qu'il est possible également des conversations électroniques ? Est-ce qu'il y a des fameux chats entre espérantistes ?
Oui, alors bien sûr, il y a... à ma connaissance, pas énormément, mais enfin, moi j'en connais surtout un qui est babileio.org, sur lequel on peut effectivement chatter à toute heure du jour et de la nuit avec des espérantistes. Que dire sur ça ?
On a eu une expérience personnelle, on pourrait peut-être la citer.
Ah oui, effectivement, on avait organisé une réunion sur chat, effectivement, lors d'un stage à Artigues. On avait. Pour les stagiaires, on avait proposé une démonstration de l'Internet et puis de ce qu'on pouvait trouver en espéranto sur Internet. Et donc, on avait organisé avec le monde entier une heure de chat. On s'était donné rendez-vous et donc on avait effectivement pu beaucoup, parce qu'on était tellement nombreux que ça a débordé très vite, mais tout au moins constater qu'effectivement, on pouvait dans la même seconde parler à un Chinois, un Russe, un Américain, un Français, un Polonais, en espéranto, à travers le monde et à la même heure. Quoi. C'est un congrès virtuel, si on peut dire.
Ciao, sono Bonaventura. gesendas impreso in nova in hoio sendas shatinda i urbo i charma i homo i del necutima viva Roma i ne lancios nova aventuron actum non da
En matière de documents espérantistes, est-ce qu'on peut se les procurer par l'intermédiaire du net ?
Oui, bien sûr. Il existe par exemple des catalogues qui existent sur divers sites pour se procurer des livres, des disques. On pourrait citer OUEA, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, ou Vinyl Cosmo, mais également Fell.
Donc Fell, c'est les flamands, Esperanto voilà. Ligo.
Vraisemblablement, je pense, là, j'en ai plus d'autres en tête, mais je pense qu'il en existe d'autres.
Mm-hmm. Ouais, mais Fell et OUEA sont des bons points d'entrée parce que OUEA étant l'organisation mondiale, ils ont quand même, en général, quand quelqu'un produit quelque chose dans le monde espérantiste, il se tourne vers OUEA pour essayer de le faire diffuser. Donc sur le site de OUEA, www.ouea.com, c'est pas compliqué. OUEA, alors quand je dis OUEA, effectivement pour les Français, je rectifie, c'est UEA. Nous on le dit à la manière espérantiste, mais si vous avez à le taper, vous tapez UEA. Alors www.uea.com. Donc ça c'est un bon point d'entrée. En plus, même si vous connaissez pas l'espéranto, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a à peu près toutes les langues du monde sur le site, vous pourrez même choisir le français,
l'occitan,
je ne suis pas bien sûr que ça y soit, mais le français c'est sûr que ça y est, donc vous pouvez avoir un point d'entrée et puis voir ce que vous pouvez récolter à partir de là, ou en France, plus près de chez nous, UFOE, donc pour les français toujours, UFE, donc www.ufe.com, sur lequel on trouve ce type d'informations, mais UFOE ne fait pas trop de la distribution de documents, c'est plutôt au niveau international que ça se passe.
Le seul regret qu'on pourrait avoir, qui n'existe pas encore à ma connaissance, justement, peut-être faudrait l'inventer, c'est un circuit de distribution de brocantage, de livres, de disques d'occasion, parce que effectivement, c'est vrai pour les œuvres en espéranto comme pour les autres, les livres neufs sont quand même relativement chers, et il existe un marché de l'occasion, mais qui est relativement informel et qui fonctionne plus à l'occasion de rencontres, de stages, mais qui n'est pas encore très très formalisé. Peut-être là il y aurait quelque chose à créer, pourquoi pas.
Tout à fait, ça me paraît une bonne idée. Le seul problème toujours avec le monde espérantiste, c'est que nous, on a toujours une vision mondiale des choses. Malheureusement, le monde ne nous suit pas toujours. Et ce qui me gêne le plus, moi, ce sont les frais qu'engendre le transfert, l'envoi d'un livre, d'un CD, d'un document quelconque. Le livre lui-même ne va peut-être pas coûter très cher, mais alors les postes françaises et étrangères nous assassinent à chaque fois. Et facilite pas forcément le travail pour communiquer d'un pays à l'autre. Thank you.
laggiù al Venas gis morteto vi explodas mi chatus vivi ce la ombro de vi
Peut-être pour terminer, on pourrait évoquer donc le téléchargement des programmes. Est-ce que l'un de vous deux en sait un petit peu plus ?
Des programmes, des téléchargements de programmes comme partout. Donc pour tous ceux qui connaissent Internet, vous savez qu'on peut télécharger des programmes. Alors des programmes en espéranto, il n'y en a pas des millions. Il y a ce qu'a cité Tides tout à l'heure, les cours qui peuvent être téléchargés. Il peut y avoir des dictionnaires qui peuvent être téléchargés, donc ça c'est bien d'avoir un dictionnaire électronique sur son ordinateur, ça permet de vérifier ce qu'on fait presque en temps réel. Je ne sais pas s'il y a des programmes, si il y a Linux qui a été traduit en espéranto, à part ça je ne sais pas s'il y a des programmes spécifiques en espéranto à part les cours ou les... Non, à ma connaissance
aussi, les polices de caractère.
Oui, bien entendu, les polices de caractère, parce que ça, il faut bien que, comme l'espéranto a ses caractères spéciaux, il faut bien avoir ses polices, tout à fait.
Non, sinon, je sais qu'il y a... alors, je ne sais pas si c'est un programme. Il y a SPIP qui est en cours de traduction.
Ah, tout à fait. C'est oui, exact.
C'est quelque chose de trop technique pour moi.
Alors, SPIP, en fait, c'est un logiciel qui permet de créer des sites web. Donc, ça permet à quelqu'un qui n'a pas de connaissances en programmation de créer son propre site web, donc de se faire voir sur la toile de tout le monde, sans avoir à connaître quoi que ce soit. Donc, effectivement, il est en cours de traduction en espéranto. Et donc, les espérantistes qui voudraient se faire connaître sur la toile peuvent utiliser SPIP pour se faire connaître sur la toile et... Se faire voir. Ça fait.
Je pense qu'on en a terminé là. Donc, si vous avez besoin d'autres informations.
Je voulais dire, si on a. Pour préparer l'émission, là, j'ai reçu un mail, justement. C'est quelque chose qui a complètement à voir avec ce qu'on disait au tout début. On a dit qu'il y a des listes de diffusion en espéranto, c'est vrai. Mais il y a aussi des listes de diffusion en France sur l'espéranto. Et j'ai reçu, pas plus tard qu'hier. Donc pour vous dire si ça fonctionne tout ça, un message qui vient d'une liste non espérantiste, donc une liste, en l'occurrence c'est une liste des Verts mondiaux. Et je voulais vous lire le message parce qu'il m'a semblé intéressant. C'est quelqu'un qui n'est pas espérantiste qui l'a écrit et j'ai trouvé intéressant. Si vous permettez, je vais vous le lire. C'est donc une dame qui s'appelle Françoise, apparemment, qui a écrit ce message et qui ne connaît pas l'espéranto. Voilà ce qu'elle disait, j'ai trouvé ça pas mal. L'espéranto ne saurait être impérialiste dans la mesure où il n'impose ni culture ni structure de pensée. Quasiment la structure et le vocabulaire sont de type indo-européen, loin du chinois par exemple, malheureusement. Alors là, on voit qu'elle n'est pas espérantiste parce que l'espéranto c'est une langue agglutinante comme le chinois. Et donc là, elle dit des choses, il faudra que je lui réponde pour dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est un début, dit-elle. Il n'a pas vocation à être universel, mais seulement universellement parlé. Je préférerais dire international plutôt qu'universel, mais je lui dirai aussi ça. Elle continue. Alors, quand je critique l'usage de l'anglais comme langue internationale, ce n'est pas en tant que langue impérialiste, mais en tant que langue porteur de l'impérialisme d'un pays et d'une culture au dépend de la culture de tous les autres pays. Alors là, je suis totalement d'accord avec elle et je la félicite d'avoir bien compris cette chose-là qui me semble ne pas être compris et partagée par tout le monde. Dans tous les autres pays, l'anglais est la langue d'une élite qui a eu accès au savoir et qui a eu les capacités intellectuelles de les acquérir. Devons-nous laisser le soin à cette élite d'établir les liens entre les peuples, de décider de la politique internationale, mondiale et nationale par la même occasion, et oublier le principe de la République française, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'anglais est une langue complexe, pleine de subtilités, qui ne sont compréhensibles que de ceux qui ont une bonne connaissance de cette culture. L'espéranto permet la démarche inverse, dans un premier temps communiquer à l'aide d'une langue facile, de structure simple, afin de pouvoir découvrir la culture de l'étranger, et dans un deuxième temps aller plus loin et apprendre la langue étrangère qu'il parle, pour comprendre encore mieux ce qu'il est. Alors elle continue en disant « Je n'ai aucun désir que l'espéranto remplace les autres langues mondiales. » Pour quelqu'un qui ne parle pas l'espéranto, c'est bien de dire ça déjà. « Une langue vivante évolue et s'enrichit de mots issus d'autres langues au cours du temps. Elle est le reflet de l'histoire et de l'évolution de ceux qui la parlent. L'espéranto n'a pas vocation à évoluer, bien au contraire, pour rester compréhensible par tous, partout dans le monde, il ne faut surtout pas qu'elle évolue. » À mes yeux, l'espéranto est une sorte d'interface accessible à tous entre deux langues et deux cultures, tout comme devrait l'être un site mondial des Verts. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui appartient aux Verts mondiaux. Giscard et consorts nous concoctent une constitution européenne où toutes les langues des pays membres sont reconnues, aucune n'est en théorie privilégiée comme langue de travail. Mais va sur un site des Verts européens et tu pourras lire que bien que regroupant des Verts des 12 pays différents, seules trois langues ont été choisies comme langue de travail, le français, l'anglais et l'allemand. Donc exit l'espagnol, le finlandais, le hollandais, l'italien et le suédois. Une fois encore, ce sont les langues des pays dominants qui sont privilégiées, c'est tout simplement plus pratique. Mais les étudiants de Sciences Po ont fait encore mieux dans leur propre proposition de constitution européenne. Ils proposent carrément que tout en reconnaissant toutes les langues, l'anglais soit la seule retenue comme langue de travail. Ils l'ont mis dans les premières lignes de leur constitution européenne. Alors elle continue en disant « Convainc-moi que j'ai tort, cela m'évitera de consacrer du temps et de l'énergie à apprendre l'espéranto. » Alors moi, je ne vais surtout pas la convaincre qu'elle a tort, bien au contraire, je trouve qu'elle a une réflexion particulièrement intelligente. Et ben c'est ce qu'on peut trouver sur des listes de diffusion sur l'espéranto, sur Internet. Donc peut-être à bientôt sur Internet alors.
Donc notre rubrique se termine. Merci messieurs. Et puis vive l'espéranto et puis vive Internet.
Mais on peut dire aussi, ben, comme point d'entrée, si vous voulez savoir, retrouvez-nous sur notre site. Alors notre site, comme d'habitude, c'est www.esperanto, ça c'est comme en français, il n'y a pas de problème, .fr comme France, .st.
Pendant les pauses musicales, vous avez pu entendre d'abord le groupe finlandais Dolchamar avec Chuvi Pretas et Dupré, puis les Catalans de Kaiti Elplu avec Kiam Naitingalo Cantas, qu'un chanteur rossignol,
Ensuite, c'était les Danois, Esperanto Desperado, avec leur titre éponyme. La seule voix féminine était celle d'Elena Pulova, qui chantait « Acceptu mondo nin amique »,« Monde accueille-nous amicalement », sur un texte de Michael Bronstein. Ils sont russes tous les deux. Puis c'était « Via corpo », ton corps, de Thierry. Et pour terminer, le groupe français « Core » avec « Senju, sans plaisir ». Aujourd'hui, c'était Thierry et Tides qui m'accompagnaient pour notre enquête sur l'espéranto Internet. Mi esperas que ni a el sendajo plachi salvi. J'espère que notre émission vous a plu. Gis la venanta foio. À la prochaine fois.
Vous entendez Survoye al Esperanto, une émission présentée par l'association Esperanto 24. Vous pouvez nous retrouver à Périgueux, quartier des Mondoux, au 22 bis rue Charnay-Fraché. Notre téléphone 05 53 08 60 08. Pour ceux équipés d'Internet, vous pouvez nous joindre à l'adresse esperanto.24@laposte.net ou sur notre site www.esperanto.fr.st.